L'actualité de la recherche, elle est dense, elle est brûlante. D'ailleurs, depuis l'annonce il y a quelques jours d'une étude positive sur les maladies d'Alzheimer très débutante, avec une nouvelle molécule, le lecanemab, si j'ai bien prononcé, un anticorps anti-amyloïde par voie injectable. C'est ce dont vous allez nous parler, docteur Vincent Planche. Vous êtes neurologue responsable du centre Mémoire, Ressources et Recherche, du CHU de Bordeaux.
Merci pour cette présentation et bonjour à tous. Oui, effectivement, on va parler un petit peu de recherche thérapeutique dans la maladie d'Alzheimer. On va peut-être pas parler que du lecanemab, je vais en parler évidemment. Mais je vais faire un tour un petit peu plus vaste. Je commence par une diapositive qui fait peur à première vue. Elle a l'air très compliquée, mais en fait, cette diapositive, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tous les petits points que vous voyez sur le camembert de droite, c'est des essais cliniques. Et des essais cliniques, aujourd'hui, il y en a énormément dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Vous voyez, ils sont tous représentés là-haut. Il y a actuellement 143 médicaments qui sont en cours d'essai, que ce soit en phase 1, en phase 2, en phase 3. Et ces essais cliniques, ils s'intéressent à plusieurs composantes de la maladie d'Alzheimer. Bien sûr, ce qui est très très à la mode aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver un traitement qu'on dit « disease modifier », qui va modifier le cours évolutif de la maladie, qui va bloquer le processus physiopathologique de la maladie, mais il y a aussi un certain nombre de médicaments qui sont représentés sur cette diapo, peu importe leur nom, qui sont encore des noms de code très compliqués. Il y a encore aussi pas mal de médicaments pour traiter les symptômes de la maladie. Il ne faut pas oublier cette recherche-là. Voilà, nous, par exemple, au CHU de Bordeaux, on travaille avec les industriels pour inclure des patients dans ces essais cliniques, essentiellement des essais de phase 2 ou de phase 3, avec des anticorps anti-amyloïdes, des anticorps anti-taux, mais on participe aussi à des essais qui ciblent d'autres mécanismes potentiels de la maladie, notamment l'inflammation ou la résistance à l'insuline. En fait, ce qui est intéressant aussi de voir, alors ce papier là, vous voyez la référence sur la gauche, Jeffrey Cummings, c'est un neurologue américain qui nous mâche un petit peu le travail tous les ans en faisant de l'inventaire des essais cliniques. Il représente aussi les essais cliniques sous ces formes d'histogrammes où on voit quelles sont justement les cibles de la recherche clinique aujourd'hui dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Tout le monde pense évidemment à la protéine amyloïde, c'est ce qui est sur le devant de la scène aujourd'hui. Mais ce qu'on voit finalement, c'est que là où il y a le plus d'essais cliniques aujourd'hui, c'est plutôt dans le domaine de l'inflammation et de l'immunité, d'accord, et aussi de la neuroplasticité. L'amyloïde, effectivement, tient un bon rang, mais il ne faut pas réduire la recherche clinique sur la maladie d'Alzheimer à la cascade amyloïde. Voilà. Comme j'ai à peu près 20-25 minutes pour parler de tout ça, je ne pourrais pas aborder toutes ces pistes, je ne pourrais pas aborder toutes ces hypothèses, je ne pourrais pas aborder tous ces traitements, mais je vais juste surfer un petit peu sur l'actualité, parce que c'est ce qu'on me demande aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler des immunothérapies anti-amyloïdes. Peut-être que certains d'entre vous étaient déjà là l'année dernière, je vous avais parlé pas mal de l'aducanumab. Aujourd'hui, il a été remplacé dans les médias et à juste titre par le lecanemab. Donc l'aducanumab, c'est un anticorps anti-amyloïde qui est sur le marché du médicament américain depuis l'année dernière, depuis 2021. C'est un médicament qui est très controversé. La décision de la FDA, donc de l'agence américaine du médicament, est très controversée puisqu'on a décidé de mettre ce médicament sur le marché en l'absence de données cliniques prouvant l'efficacité de ce traitement. Ce médicament n'est sur le marché du médicament que parce qu'il est efficace biologiquement pour éliminer les plaques amyloïdes. Et ce que la FDA dit, c'est que nous, on pense que l'hypothèse de la cascade amyloïde est tellement intéressante et pertinente, selon la FDA, qu'un médicament qui élimine l'amyloïde est forcément efficace. Donc voilà, ce n'est pas du tout l'avis de la majorité de la communauté neurologique, mais ce médicament est quand même sur le marché américain et il est très très peu prescrit depuis un an. D'ailleurs, Biogen, quelques mois plus tard, a divisé le prix du médicament par deux parce qu'il ne se vendait pas et que le business est important aux États-Unis. Donc il y avait déjà des soldes au bout de 3-4 mois et les agences de remboursement américaines que sont Medicare et Medicaid ont décidé de ne pas rembourser ce traitement. On a pris ça au printemps dernier et Biogen ne commercialise plus l'aducanumab aujourd'hui aux États-Unis. C'est un échec, ce traitement, un échec commercial, très clairement, tout simplement parce que, bien sûr, ils sont allés trop tôt demander une approbation sans données cliniques. Et comme les choses bougent vite, le 28 septembre dernier, il y a 15 jours maintenant, notre laboratoire, Eisai, en partenariat avec le même laboratoire, Biogen, communique. Il s'agit d'une communication, il s'agit d'un communiqué de presse, on ne parle pas encore de publication scientifique, communique sur le lecanemab pour dire que leur essai clinique de phase 3, c'est-à-dire vraiment l'échelon terminal du développement d'un médicament, leur essai de phase 3 est positif, cette fois-ci, sur un critère de jugement clinique qui nous intéresse. Et en plus, ce médicament en phase 2 avait déjà commencé une efficacité, donc quelque chose d'assez probant sur le lecanemab. Alors, pour vous parler un petit peu plus d'aducanumab, de lecanemab, bien sûr, je dois vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Vous le savez certainement, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on considère qu'il y a deux ennemis jurés, c'est la protéine amyloïde et la protéine tau, ces agrégats protéiques qui définissent la maladie, en tout cas pour l'anatomopathologiste qui regarde un cerveau sur le microscope, et on pense que ces protéines causent directement la maladie. Dans un phénomène en cascade, on pense que 15 à 20 ans avant le début des symptômes, il y a des plaques amyloïdes qui apparaissent. Ces plaques amyloïdes entraînent ces phosphorylations et ces agrégations de protéines tau dans les neurones. Ces agrégations de protéines tau dans les neurones induisent la mort des neurones qui, au bout d'un certain temps et au bout d'un certain seuil de mort neuronale, vont malheureusement causer l'apparition des troubles cognitifs. D'abord un trouble cognitif léger, puis bien sûr le syndrome démentiel, malheureusement. Et donc, l'idée... Alors, j'ai deux télécommandes, ça me demande un peu de... L'idée, c'est donc d'aller bloquer cette cascade amyloïde en enlevant l'amyloïde du cerveau des patients. Et effectivement, si l'hypothèse de la cascade amyloïde est exacte, ou même en partie exacte, si j'enlève l'amyloïde du cerveau des patients, je ne vais peut-être pas revenir en arrière sur tout ce qu'il y a dans la cascade, je ne vais pas enlever la protéine tau, je ne vais pas refaire pousser des neurones, mais au moins je vais bloquer tous ces processus évolutifs. Et sur ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire la clinique, eh bien, si je traite très tôt, au stade de troubles cognitifs légers, je vous remets la diapo d'avant, mais si je traite très tôt au stade de troubles cognitifs légers, là, qui sont en train de monter vers la démence, si je traite très tôt, j'aurai peut-être jamais de démence. C'est ça l'idée de ces traitements, et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont disease modifier, ils modifieraient au conditionnel le cours évolutif de la maladie. Voilà l'idée. Alors, je les ai appelés les bidulomab, peu importe ce qu'il y a avant le mot MAB. MAB, ça veut dire monoclonal antibody en anglais, donc c'est pour ça qu'ils ont un peu tous un nom qui se termine par MAB. Ces anticorps monoclonaux, eh ben, ça se perfuse, c'est ce que vous voyez sur cette diapositive ici, ça se perfuse tous les mois, deux fois par mois pour le lecanemab. Il y a certains industriels qui travaillent sous des formes à injection sous-cutanée, et l'idée, c'est que ces anticorps anti-amyloïdes vont en faible quantité, mais vont quand même traverser la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir passer du sang vers le cerveau. Et comme c'est des anticorps, un anticorps, c'est fait pour reconnaître un antigène, c'est fait pour reconnaître une protéine. Alors, on a des anticorps pour se défendre des virus et des bactéries, mais là, en fait, on injecte des anticorps pour qu'ils reconnaissent les plaques amyloïdes. Ils se fixent sur ces plaques amyloïdes. Et ce que fait notre système immunitaire, quand il voit un anticorps fixé sur quelque chose, eh ben, il vient manger ce quelque chose, que ce soit une cellule, une bactérie, ou des plaques, comme c'est le cas ici. Donc l'anticorps reconnaît la plaque, le système immunitaire du patient reconnaît l'anticorps et vient manger la plaque. Voilà comment ça marche. Finalement, c'est relativement simple. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces nouveaux anticorps anti-amyloïdes, parce que ça fait un petit moment qu'on en parle des anticorps anti-amyloïdes, les premiers n'étaient pas très efficaces, certainement parce qu'ils ne ciblaient pas la bonne forme de l'amyloïde, peut-être pas les bons patients, certainement pas aux bonnes doses. Mais le moins qu'on puisse dire depuis 5 ans, c'est que ces nouveaux anticorps anti-amyloïdes sont très efficaces pour faire ce qu'on leur demande, c'est-à-dire sont très efficaces pour enlever l'amyloïde du cerveau des patients. Ils ont, en 2016, avec l'aducanumab, d'ailleurs c'était la phase 1, ils ont fait une très belle couverture dans la prestigieuse revue Nature. Ce que vous voyez ici, c'est une tape amyloïde d'un patient avant aducanumab et d'un patient après un an de traitement. En fait, après un an de traitement, les patients n'ont plus de plaques amyloïdes dans le cerveau. Mais en fait, leur tape amyloïde, elle est aussi normale que la mienne. En tout cas, je croise les doigts. Donc, ces médicaments marchent très bien biologiquement. C'est d'ailleurs pour ça que l'aducanumab est sur le marché. Excusez-moi, je suis allé trop vite. La vraie question, c'est donc, parce que c'est pas tout d'éliminer les plaques amyloïdes, on s'en fiche en soi. La question, c'est est-ce que ça freine l'évolution de la maladie? Est-ce que ça freine le déclin? Est-ce que l'hypothèse de la cascade amyloïde est exacte? Est-ce que si j'enlève l'amyloïde du cerveau, je ralentis le déclin? On s'amusait avec des collègues parisiens à faire ce qu'on appelle la méta-analyse, c'est-à-dire qu'on a pris tous les essais cliniques de phase 2, de phase 3, avec ces nouveaux anticorps anti-amyloïdes qui éliminent très bien les plaques. Et on a regardé le critère de jugement principal. Alors, je suis désolé, je rentre un peu dans les détails, certains suivront, j'espère, sur une échelle clinique qu'on appelle la CDR, Sum of Boxes. C'est cette échelle clinique qui aujourd'hui nous permet de juger l'efficacité du traitement. En fait, ce qu'on voit ici, si on accumule les données de tous ces essais cliniques, vous voyez le losange ici, il ne chevauche pas le zéro. Ça veut dire que ces médicaments semblent être cliniquement efficaces. Et même, en fait, alors ça, on l'a publié quelques jours avant l'apparition, enfin, l'annonce de l'essai du lecanemab qui était positif. On s'est dépêché de refaire la méta-analyse avec les résultats de ce nouvel essai. On voit que le losange s'est un tout petit peu plus décalé vers la gauche. Donc on est un petit peu plus confiant sur le fait que cette classe de médicaments est bien efficace cliniquement. Par contre, ce qui est important, et toute la question va être là aujourd'hui, c'est est-ce que cette efficacité clinique qui semble relativement indiscutable aujourd'hui, est-ce qu'elle est pertinente cliniquement ? On vous a mis ici en rouge la zone qu'on considère être cliniquement pertinente. Parce que c'est pas tout de se dire qu'au bout de 18 mois de traitement, parce que là on parle de 18 mois de traitement, les patients dans le groupe traité, ils sont un tout petit peu mieux que les patients dans le groupe placebo. S'ils sont un tout petit peu mieux, dans l'absolu, on s'en réjouit. Mais finalement, est-ce qu'on est capable de faire la différence, vous et moi ? C'est-à-dire, est-ce que l'aidant qui s'occupe d'un patient, au bout de 18 mois de traitement, ces quelques points là sur la CDR, Sum of Boxes, est-ce que ça représente quelque chose de palpable ? Vous voyez, c'est comme si vous aviez un traitement antihypertenseur qui baisse d'une toute petite mini-fraction votre hypertension artérielle. Est-ce que c'est suffisant pour avoir quelque chose de palpable ? Est-ce que ça va vous empêcher de faire des infarctus ? Quelque chose de fort. Eh bien, voilà, l'effet minimal efficace, il est là, il est autour de 1, et aujourd'hui, même si on rajoute les essais du lecanemab, on est autour de 0,31. Alors, c'est 0,45 pour le lecanemab, 0,31 si on poule tout, on est toujours très loin de ce 1. Et c'est ça qui nous embête, en tout cas, certains neurologues dont je fais partie, c'est qu'on se dit, oui, on a un traitement efficace, mais on a un traitement très faiblement efficace, qui, à 18 mois, n'est peut-être pas suffisamment efficace pour mériter d'être mis en œuvre. Et parce que ça, c'est le bénéfice attendu. Mais vous savez, en médecine, on pèse toujours la balance bénéfice-risque. Quels sont les risques de ces médicaments ? Alors, oui, j'ai fait une petite aparté. Sophie, que j'ai remplacée au dernier moment et qui devait faire cette présentation à ma place, voulait vous parler de la CDR, ce fameux critère de jugement principal dans les essais cliniques. En fait, c'est une échelle sur 18 points, si on fait la somme de tout, où en fait on s'intéresse à la mémoire, l'orientation, les capacités de jugement des patients, mais aussi, ce qui est intéressant avec cette échelle, c'est qu'il y a à la fois de la cognition et de la fonction. On s'intéresse à ce que les gens font chez eux, hors de chez eux. On vérifie aussi qu'ils se prennent en charge, est-ce qu'ils font leur toilette, est-ce qu'ils s'habillent tout seuls, etc., etc. Et en fait, après un interrogatoire très poussé, hein, c'est long de faire une CDR, généralement il y a 20 minutes, 30 minutes d'interrogatoire de l'aidant avec des questions très standardisées. La même chose pour le patient, on intercale quelques petits tests de mémoire et d'orientation afin de noter notre patient de 0 à 18. Et donc ce qu'on voit au bout de 18 mois de traitement, c'est qu'il y a une différence de 0,45 points sur cette échelle qui va jusqu'à 18. Voilà pour l'aparté. Et donc quels sont les effets indésirables de ces médicaments-là ? Décidément. Tiens. On ne peut plus revenir en arrière. Je ne sais pas si là-haut vous pouvez revenir en arrière sur la diapositive. Ah, merci. Les effets indésirables de ces traitements, c'est ce qu'on appelle des ARIA. A-R-I-A. Pour, je suis désolé, l'acronyme est anglais. Amyloid Related Imaging Abnormalities, c'est-à-dire des anomalies à l'IRM en lien avec la clairance de l'amyloïde. Il y en a deux types. Il y a des œdèmes que vous voyez ici, il y a des hématomes que vous voyez ici. Alors, ces images, elles sont apocalyptiques. Des patients comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Dans les essais cliniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a 7 patients sur 1331 patients qui ont reçu les fortes doses de ces traitements qui ont présenté des tableaux comme ceci. Ça, on parle de patients qui étaient traités, qui avaient un trouble cognitif léger en lien avec la maladie d'Alzheimer, parce que c'est ces patients qu'on inclut dans les essais cliniques, qui étaient donc encore autonomes. Ils avaient certes des problèmes de mémoire, mais ils étaient autonomes. Avec ça, ils sont en fauteuil roulant. Et ils ne font plus rien. Et pour certains d'entre eux, ils décèdent. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, je ne suis pas là pour faire l'annonciateur de mauvaises nouvelles, mais je suis là pour pondérer un petit peu l'enthousiasme autour de ces médicaments-là. C'est qu'ils sont risqués. Vraiment. 7 sur 1331, ce n'est pas énorme. Ça fait un patient sur 200. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas négligeable quand on sait qu'on estime que rien qu'en France, ça, c'est notre estimation personnelle, parce que finalement, on n'a pas de très bonnes données d'épidémiologie sur le trouble cognitif léger en lien avec la maladie d'Alzheimer en France, mais on estime que potentiellement en France, si on appliquait tous les critères d'inclusion des essais cliniques, on aurait probablement 300 000 patients à traiter. Donc, les critères d'inclusion, j'y reviendrai tout à l'heure. 300 000 patients, un patient sur 200 qui fait une complication très grave, comme je vous ai montré, ça fait quand même 1 500 patients, c'est pas négligeable. Donc voilà, il va y avoir une vraie discussion, une vraie très grosse discussion sur la balance bénéfice-risque de ces traitements-là, parce que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est leur efficacité à 18 mois, au bout d'un an et demi de traitement. Et ce que beaucoup pensent, c'est qu'on a un traitement disease modifier, c'est-à-dire qu'on freine, on ralentit l'évolution de la maladie, et donc si je prends un groupe qui n'est pas traité, et si je prends un groupe qui est traité, l'écart entre ces groupes, logiquement, devrait augmenter avec le temps. Et si à 18 mois, c'est pas beaucoup, peut-être qu'à 5 ans, ça commence à devenir vraiment pertinent comme effet freinateur de la maladie. Ça, c'est une hypothèse, c'est pas démontré. Pour l'instant, il n'y a pas d'essai en cours sur 3, 4, 5 ans chez les patients avec un trouble cognitif léger en lien avec la maladie d'Alzheimer. Ça va être un grand débat pour savoir si ces médicaments vont recevoir une autorisation de mise sur le marché en Europe, ce qui, à mon humble avis, est très fort probable, puisque de ce qu'on en sait aujourd'hui, les données ne sont pas publiées, mais les résultats du lecanemab sont quand même relativement probants et méritent certainement que ce médicament soit sur le marché. Par contre, là où la discussion va être très épineuse et très difficile, c'est au niveau de la Haute Autorité de Santé en France, par exemple, pour savoir si ces médicaments vont être remboursés, parce que ce n'est pas tout de savoir s'ils sont mis sur le marché. En ce qui concerne notre système de français ensemble, en France, pardon, il faut qu'il soit remboursé. Et ça, à mon avis, ça ne va pas être facile, surtout quand on sait que la commission de transparence de la HAS a déremboursé les anticholinestérasiques, qui sont aujourd'hui les seuls traitements dont on dispose dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Et pour vous donner une idée de la taille de l'effet, les anticholinestérasiques, qu'on juge aujourd'hui comme étant insuffisamment efficaces, font aussi bien en 6 semaines que ces anticorps en 1 an et demi. D'accord ? Donc ça vous dit un petit peu qu'on part certainement du mauvais pied pour que ces médicaments soient remboursés un jour. Là, on vous a mis un calendrier hypothétique de quand est-ce qu'on pourrait éventuellement voir ces anticorps sur le marché. Alors là encore, possible positive phase 3 clinical trial pour le lecanemab, ben en fait, apparemment, on l'a déjà. Vous voyez, on était fin 2022, donc les choses peuvent aller relativement vite. On estime qu'en 2024, c'est possible, notamment dans des critères de mise sur le marché assez accélérés, des autorisations temporaires d'utilisation, ce serait possible qu'on l'ait en France si la HAS et l'assurance maladie suivent. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Je peux finir à quelle heure ? Il me reste un petit peu de temps. Alors, je peux revenir sur toutes ces considérations que j'ai commencé un petit peu à aborder. Cet aducanumab, ce lecanemab, probablement d'autres anticorps qui sont en cours de développement et pour lesquels on attend les résultats des essais de phase 3 dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, le donanemab, le gantenerumab aussi. Quand, pour qui, comment ? J'ai mis vraiment. Point d'interrogation. Alors, quand, j'ai commencé à vous le dire, et c'est important de le comprendre, ces anticorps ne seront pas un traitement de la maladie d'Alzheimer. Ces anticorps seront un traitement à un stade bien particulier de la maladie d'Alzheimer, qui est celui du trouble cognitif léger. Je vous rappelle la différence entre un trouble cognitif léger et un trouble cognitif majeur, c'est j'ai des troubles de la mémoire, du langage, du raisonnement, peu importe, j'ai des troubles cognitifs, mais qui ne sont pas encore suffisamment sévères pour retentir sur mon autonomie. C'est-à-dire, oui, j'ai des problèmes de mémoire, ma mémoire est anormale pour mon âge, mais je note, je me débrouille, je fais répéter les gens, et j'arrive quand même à gérer ma vie tout seul, je fais mes courses, mon ménage, je gère mes factures, j'arrive à vivre tout seul. Là, c'est le trouble cognitif léger, le trouble cognitif majeur ou la démence, c'est quand il commence à y avoir un impact sur l'autonomie. Ces traitements ont été testés aujourd'hui et semblent efficaces qu'à ce stade-là, celui de trouble cognitif léger, Ce qui fait sens, évidemment, on est sur un traitement qui freine l'évolution de la maladie. Il faut traiter tôt pour que ce soit véritablement pertinent. Ça implique un autre challenge absolument colossal, c'est qu'il va falloir aller diagnostiquer les gens à ce stade-là. Aujourd'hui, alors moi j'en vois beaucoup en consultation mémoire qui viennent consulter à ce stade-là, des gens généralement d'un haut niveau d'éducation, de centre-ville, qui s'inquiètent dès qu'ils oublient leurs clés parce qu'ils ont 63 ans et qu'ils ont une arrière-grande-tante qui est décédée à 90 ans d'une maladie d'Alzheimer, qui se ruent en consultation mémoire à la première inquiétude. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ne viennent jamais consulter ou à des stades beaucoup trop évolués. Et donc ces patients rateraient complètement le coche de ces traitements-là. Donc si on a ces médicaments, il va falloir les chercher, ou en tout cas, à défaut d'aller les chercher, être capable de les recevoir, ce que notre système de santé n'est certainement pas encore tout à fait capable de faire. Les formes cliniques, le stade, l'âge, j'en ai parlé. L'âge, je pense que c'est un point important à discuter là aussi. Je ne suis pas sûr qu'il faille traiter tout le monde avec ces médicaments-là si on les utilise. Comme je vous disais, l'efficacité à 18 mois est probablement pas suffisamment importante pour qu'on expose nos patients au risque de ces médicaments. Par contre, un sujet jeune, voilà, moi je vois surtout des Alzheimer du sujet jeune, à 50 ans, à 60 ans, à 65 ans, qui n'ont pas vraiment d'autres problèmes de santé. Sur le papier, ils ont 25, 30 ans d'espérance de vie. Donc là, effectivement, imaginez avoir un traitement qui puisse freiner l'évolution de la maladie. Sur ces 5 ou 10 prochaines années, ça a peut-être du sens. Ce qui veut dire aussi que dans un contexte de gériatrie, une personne de 90 ans avec une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, deux antécédents de cancer, on sait que c'est quelqu'un qui a, Eric le dirait mieux que moi, 6 mois, 1 an, 2 ans d'espérance de vie. Ces gens-là, même s'ils sont au stade débutant de la maladie d'Alzheimer, bien sûr qu'il ne faudra pas les embêter avec ces traitements-là, des perfusions tous les mois, des IRM tous les 2 mois et des effets indésirables potentiellement graves. Voilà, les autres, j'en ai parlé rapidement, ça va être un challenge en termes de diagnostic, il va falloir qu'on ait beaucoup de biomarqueurs et autres que la ponction lombaire qu'on a aujourd'hui, parce que ces patients qu'on inclut dans les essais et ces patients qu'on traite avec des anticorps anti-amyloïdes, il ne faut pas seulement leur faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer qu'on dit cliniquement probable, c'est-à-dire sur les données de la clinique et les données de l'IRM, il faut bien sûr faire la preuve de cette pathologie amyloïde pour être bien sûr qu'on ait affaire à une maladie d'Alzheimer. Donc ça veut dire mettre en évidence l'amyloïde. Aujourd'hui, on ne peut utiliser que la ponction lombaire et le liquide céphalorachidien. Heureusement, depuis l'été dernier, la commission de transparence de la HAS a enfin dit qu'il y avait un intérêt pour utiliser la TEP amyloïde dans notre pays. Donc, on devrait pouvoir avoir accès en clinique à la TEP amyloïde dans les mois qui viennent. Et puis, demain, ça pourra peut-être être un sujet pour les prochains entretiens Alzheimer, d'ailleurs. Vous savez peut-être aussi qu'aujourd'hui, on est de plus en plus capable, ça commence à être quand même vraiment très efficace, de doser les biomarqueurs de maladie d'Alzheimer dans le sang. Mais là encore, ça fait des nouvelles choses à implémenter pour faire face à la mise en place de ces nouveaux traitements.